Clérambeau, troisième partie. Mais ceux qui l'entouraient n'en avaient nul profit. Madame Clérambeau ne récoltait de la lutte que les désagréments, une animosité générale qui finissait par se faire jour jusque chez les petits fournisseurs du quartier. Rosine dépérissait. Sa peine de cœur, qu'elle tenait secrète, l'étiolait en silence. Si elle ne se plaignait point, sa mère le faisait pour deux. Elle associait dans une égale amertume les sots qui lui faisaient des affronts et l'imprudent Clérambeau qui les lui valait. C'était, à chaque repas, des reproches maladroits pour l'amener à se taire. Rien n'y faisait. Blâmes muets ou bruyants glissaient sur Clérambeau. Sans doute il était contrit, mais il s'abandonnait à l'ardeur de la lutte. Un égoïsme inconscient et un peu enfantin lui faisait écarter ce qui contrariait ce plaisir nouveau. Les circonstances vinrent en aide à Madame Clérambeau. Une vieille parente qui l'avait élevée mourut. Elle habitait en Berry et léguait au Clérambeau sa petite propriété. Madame Clérambeau utilisa son chagrin pour s'éloigner de Paris, que maintenant elle abhorrait, et pour arracher son mari à ce milieu dangereux. Elle sut faire valoir, avec son deuil, les raisons d'intérêt et la santé de Rosine qui se trouverait bien de ce changement d'air. Clérambeau céda. Ils allèrent tous les trois prendre possession de leur petit héritage et restèrent en Berry l'été et l'automne. C'était à la campagne, une vieille maison bourgeoise à la sortie d'un village. De l'agitation de Paris, Clérambeau passa brusquement à un calme stagnant. Dans le silence des journées, le chant des coqs dans les fermes, les meuglements des bétiaux dans les prés, ponctuaient les heures monotones. Le cœur de Clérambeau était trop enfiévré pour s'adapter au rythme placide et lent de la nature. Jadis, il l'avait aimée jusqu'à l'adoration. Jadis, il était en harmonie avec ce peuple des campagnes d'où sa famille était issue. Mais aujourd'hui, les paysans avec qui il essaya de causer lui firent l'effet d'homme d'une autre planète. Certes, il n'était pas infecté par le virus de la guerre. Il ne se passionnait point. Il ne montrait pas de haine contre l'ennemi. Mais il n'en montrait aucune non plus contre la guerre. Il l'acceptait comme un fait. Il n'en était pas dupe. Certaines réflexions d'une bonhomie malicieuse faisaient voir qu'il savait ce qu'il valait. En attendant, ce fait, il l'utilisait. Il faisait de grasses affaires. Sans doute, ils perdaient leur fils, mais leur bien ne perdait point. Ils n'étaient pas insensibles. Leur deuil, pour s'exprimer peu, n'en était pas moins inscrit en eux. Mais enfin, les vies passent et la terre demeure. Eux, du moins, n'avaient pas, comme les bourgeois des villes, envoyé par fanatisme national leurs enfants à la mort. Seulement, leur sacrifice, ils savaient le mettre en valeur. Et il est probable que les fils sacrifiés l'eussent trouvé naturel. Pour perdre ce qu'on aime, doit-on perdre la tête? Les paysans ne l'ont point perdu. La guerre a fait, dit-on, dans les campagnes de France, près d'un million de nouveaux propriétaires. La pensée de Clérambeau se sentait exilée. Elle ne parlait point la même langue. Ils échangeaient avec lui quelques vagues doléances. Quand il parle aux bourgeois, le paysan se plaint toujours, par habitude. C'est une façon de se défendre contre un possible appel à son escarcelle. ils eussent parlé sur le même ton d'une épidémie de fièvre aphteuse. Clérambault restait, pour eux, le Parisien. S'il pensait quelque chose, il n'aurait pas été le lui dire. Il était d'une autre tribu. L'absence de résonance étouffait la parole de Clérambault. Impressionnable comme il était, il en venait à ne plus l'entendre. Silence. La voix des amis inconnus et lointains, qui tentaient de le rejoindre, était interceptée par l'espionnage postal. Une des hontes qui déshonorait ce temps. Sous prétexte de réprimer l'espionnage étranger, l'État d'alors faisait de ses propres citoyens des espions. Il ne se contentait pas de surveiller la politique, il violait les pensées. Il dressait ses agents au métier de valet qui vont écouter aux portes. Cette prime, offerte à la bassesse, remplissait le pays, tous les pays, de policiers volontaires, gens du monde, gens de lettres, en grand nombre embusqués, qui achetaient leur sécurité en vendant celle des autres et couvraient leur dénonciation du nom de la patrie. Grâce à ces délateurs, les pensées libres qui se cherchaient ne parvenaient point à se donner la main. L'énorme monstre, l'État, avait une peur soupçonneuse de la demi-douzaine de personnalités libres, seules, faibles, démunies, tant lui cuisait l'épine de sa mauvaise conscience. Et chacune de ces âmes libres, encerclées par une surveillance occulte, se rongeait dans sa geôle. Et, ne pouvant savoir que d'autres souffraient d'eux-mêmes, se mouraient lentement, dans les glaces polaires, gelées en son désespoir. L'âme que Clérambault portait sous sa peau était trop brûlante pour se laisser recouvrir par le linceul de neige. Mais l'âme ne suffit pas. Le corps est une plante qui a besoin de terre humaine. Privé de sympathie, réduit à se nourrir de sa propre substance, il dépérit. Tous les raisonnements de Clérambault, pour se prouver que sa pensée répondait à celle de milliers d'inconnus, ne remplaçaient pas le contact réel d'un seul cœur vivant. La foi suffit à l'esprit, mais le cœur est saint Thomas, il a besoin de toucher. Clérambault n'avait pas prévu cette défaillance physique, l'asphyxie. La peau sèche, le sang bu par le corps brûlé, les sources de vie taries. Sous la cloche pneumatique, un mur le séparait de l'air. Or, un soir qu'il avait, comme un phtisique par une lourde journée, erré de pièce en pièce à travers la maison, à la quête d'un souffle à respirer, une lettre arriva, qui avait réussi à passer entre les mailles du filet. Un vieil homme comme lui, un instituteur de village, dans une vallée perdue du Dauphiné, disait « La guerre m'a tout pris. De ceux que je connaissais, elle a tué les uns. Les autres, je ne les reconnais plus. Tout ce qui me faisait vivre, mon espoir de progrès, ma foi en un avenir de raison fraternelle, il trépigne dessus. Je mourais de désespoir quand le hasard d'un journal qui vous insultait m'a fait connaître vos articles aux morts et à celles qu'on a aimées. Je les ai lus et j'ai pleuré de joie. On n'est donc point tout seul, on ne souffre pas tout seul. Vous y croyez encore, monsieur, à cette foi? Dites-moi, vous y croyez? Elle existe toujours, ils ne la tueront pas? Ah, que cela fait du bien, je finissais par douter. Pardon, mais on est vieux, on est seul, on est bien là. Je vous bénis, monsieur, maintenant je mourrai tranquille. Maintenant je sais, grâce à vous, que je ne me suis pas trompé. » Ce fut, instantanément, comme si l'air rentrait par une fissure. Les poumons se gonflèrent, le cœur se remit à battre, la source de vie se rouvrit et recommença de remplir le lit de l'âme desséchée. ô besoin que l'on a de l'amour les uns des autres. Main tendue à l'heure de mon angoisse, main qui m'a fait sentir que je n'étais pas une branche arrachée de l'arbre, mais que je tiens au cœur, je te sauve et tu me sauves. Je te donne ma force, elle meurt si tu ne la prends. La vérité solitaire est comme une étincelle qui jaillit du caillou, sèche, cinglante, éphémère. Elle va s'éteindre? Non. Elle a touché une autre âme. Une étoile s'allume au fond de l'horizon. Il ne la vit qu'un instant. Elle rentra sous le nuage et pour toujours disparut. Clérambeau écrivit le jour même à l'ami inconnu. Il lui confiait avec effusion ses épreuves et ses dangereuses convictions. La lettre resta sans réponse. Après quelques semaines, Clérambeau réécrivit sans plus de succès. Telle était sa fin d'un ami avec qui échanger la douleur et l'espoir, qu'il prit le train pour Grenoble et de là fit à pied la route jusqu'au village dont il avait l'adresse. Mais quand, le cœur joyeux de la surprise qu'il allait causer, il frappa à la porte de l'école, celui qui lui ouvrit ne comprit rien à ce qu'il dit. Après explication, il sut que l'instituteur qui lui parlait était nouveau venu au village. Le prédécesseur avait été déplacé un mois auparavant et envoyé par disgrâce dans une région éloignée. Mais il n'avait pas eu la peine de faire le voyage. Une fluxion de poitrine l'avait enlevé, la veille du jour où il devait quitter ce pays qu'il habitait depuis 30 ans. Il l'habitait encore, il était en terre. Clérambeau vit la croix sur le tertre encore frais, et il ne sut jamais si l'ami disparu avait au moins reçu ses paroles d'affection. Il était mieux pour lui de rester dans le doute. Non, l'ami disparu n'avait pas reçu ses lettres. Il lui avait dérobé même cette lueur de joie. La fin de l'été en Berry fut une des périodes les plus arides de la vie de Clérambeau. Il ne causait avec personne, il n'écrivait plus rien. Il n'avait aucun moyen de communiquer directement avec le peuple ouvrier. Dans les rares occasions où il s'était trouvé en contact avec lui, dans des foules, des fêtes, des universités ouvrières, il se faisait aimer. Mais une timidité, au reste réciproque, empêchait de se livrer. D'un côté comme de l'autre, on avait le sentiment, orgueilleux ou gêné, de son infériorité. Car Clérambeau se croyait en bien des choses et des plus essentielles inférieur aux ouvriers intelligents. Il avait raison, c'est dans leur rang que se recruteront les chefs de l'avenir. L'élite ouvrière comptait alors de probes et virils esprits qui eussent été faits pour comprendre Clérambeau. Avec un idéalisme intact, ils restaient fermement attachés au réel. Habitués par la vie quotidienne aux combats, aux déceptions, aux trahisons, ces hommes, dont plusieurs étaient, quoique jeunes encore, des vétérans de la lutte sociale, étaient dressés à la patience. Et ils eussent pu l'apprendre à Clérambeau. Il savait que tout s'achète, que l'on n'a rien pour rien, que ceux qui veulent le bonheur des hommes à venir doivent le payer de leurs souffrances propres, que le moindre progrès se conquiert pas à pas, et, souvent, se perd 20 fois avant d'être acquis définitivement. Rien n'est définitif. Clérambeau aurait eu grand besoin de ces hommes solides et patients comme la terre, et sa chaude intelligence les eût ensoleillés. Mais il portait, eux et lui, la peine du système de caste, archaïque, blessant, funeste à la communauté non moins qu'à l'individu, que crée entre les citoyens prétendus égaux de nos menteuses démocraties l'inégalité excessive des fortunes, de l'éducation, de la vie. Il ne communiquait de caste à caste que par les journalistes qui, formant une caste à part, ne représentent ni les uns ni les autres. La voix seule des journaux remplissait le silence de Clérambault. Rien n'était capable de troubler leur brekekekex, coax, coax. Les résultats désastreux d'une nouvelle offensive les trouvèrent, comme toujours, intrépides au poste. Les oracles optimistes des pontifes de l'arrière étaient une fois de plus démentis. Nul ne paraissait le remarquer. D'autres oracles succédaient, débités et gobés avec la même assurance. Ni ceux qui écrivaient, ni ceux qui les lisaient ne reconnaissaient qu'ils s'étaient trompés. En toute sincérité, ils ne s'en apercevaient pas. Ce qu'ils avaient dit la veille, ils ne se le rappelaient plus. Que diable peut-on fonder sur ces animaux-là? Cervelle d'écureuil, tête en haut, tête en bas. On ne peut en tout cas leur refuser le don de se retrouver sur leurs pattes après leur cabriole. Une conviction par jour, la qualité n'importe puisqu'on la renouvelle. Vers la fin de l'automne, pour soutenir le moral qui fléchissait à l'idée des tristesses de l'hiver, on refit dans la presse une nouvelle propagande d'atrocité germanique. Elle rendit parfaitement. Le thermomètre de l'opinion remonta brusquement à la fièvre. Jusque dans le placide village du Berry, pendant quelques semaines, les langues s'agitèrent en des propos cruels. Le curé s'y associa, fit un prône de vengeance. Clérambault, qui l'apprit de sa femme au déjeuner, manifesta sans ménagement ce qu'il en pensait devant la domestique qui servait à table. Le soir, tout le village savait qu'il était un boche. Et chaque matin, depuis, Clérambault put le lire, inscrit sur sa porte. L'humeur de Madame Clérambault n'en fut pas adoucie. Et Rosine, qui, dans le juvénile chagrin de son amour déçu, passait par une crise de religiosité, était trop occupée de son âme endolorie et de ses métamorphoses pour songer aux peines des autres. Les plus tendres natures ont leurs heures de naïf et parfait égoïsme. Livré seul à lui-même, privé de moyens d'agir, Clérambault retourna contre lui sa fièvre de pensée. Plus rien ne le retint sur la voie de l'âpre vérité. Rien n'en venait plus tempérer la lumière cruelle. Il se sentait l'âme brûlée de ces fuoriosités qui, rejetées des murailles de la durcité, la regardent du dehors avec des yeux sans piété. Ce n'était plus la vision douloureuse de la première nuit d'épreuve, dont les blessures saignantes l'unissaient encore à son groupe humain. Tous les liens étaient rompus. Son esprit trop lucide descendait, en girant, sur l'abîme, la descente aux enfers. Lentement, de cercle en cercle, et seul dans le silence. Je vous vois donc, troupeau. Peuple, myriade d'êtres, qui avez besoin de vous serrer en banc pour frayer et penser. Chacun de vos groupements a son odeur spéciale qui lui paraît sacrée. Comme chez les abeilles, la puanteur de leur reine fait l'unité de la ruche et leur joie au travail. Comme chez les fourmis, qui ne pue pas comme moi et ma race, je le tue. Ruche d'hommes, chacune a votre odeur de race, de religion, de morale, de coutumes rituelles. Elle imprègne vos corps, votre cire, votre couvain. Elle enduit votre vie de la naissance à la mort. Malheur à qui se lave. Qui veut humer le relent de cette pensée des saints, cette sueur des nuits hallucinées d'un peuple, qu'il regarde à distance les rites et les croyances dans les lointains de l'histoire. Qu'il aille demander au narquois Hérodote de tourner devant lui le film de la divagation humaine, ce long panorama de coutumes sociales, ignobles ou ridicules, mais toujours vénérées, des Scythes, des Icédons, des Jettes, des Nasamons, des Gendarmes, des Sauromates, des Lydiens, des Libyens et des Égyptiens, ces bipèdes de tout cuir, de l'Orient au couchant et du Nord au midi. Le grand roi, esprit fort, par jeu invite les Grecs qui brûlent leurs morts à les manger, et les Hindous qui les mangent à les brûler. Et il rit de leur indignation. Mais le sage Hérodote, qui ôte son bonnet, tout en souriant derrière la coiffe, se défend de les juger et blâme qui les raille. Car, si l'on proposait à tous les hommes de faire un choix parmi les meilleures lois de divers pays, chacun se déciderait pour celle de sa patrie. Tant il est vrai que chacun est persuadé qu'il n'en est point de plus belle. Aussi, rien de plus vrai que le mot de Pindare. La coutume est la reine de tous les hommes. Chacun boit à son auge, mais au moins devrait-il supporter que les autres boivent à la leur. Point. Pour qu'il jouisse de la sienne, il faut qu'il crache dans celle du voisin. Le Dieu le veut. Car il lui faut un Dieu, quel qu'il soit, homme ou bête, fût-il même un objet, une ligne rouge ou noire, ainsi qu'au Moyen-Âge, une merlette, un corbeau, un blason, pour se décharger sur lui de ses insanités. Aujourd'hui qu'au blason a succédé le drapeau, nous nous proclamons affranchis des superstitions. Quand furent-elles plus épaisses? Maintenant, le dogme nouveau, l'égalité, nous oblige tous à puer exactement les uns comme les autres. Nous ne sommes même plus libres de dire que nous ne sommes pas libres, ce serait un sacrilège. Il faut, le bas sur le dos, braire, vive la liberté. La fille de Khéops, sur l'ordre de son père, s'était faite putain, afin de contribuer, avec l'argent de son ventre, à élever la pyramide. Pour élever la pyramide de nos massives républiques, les millions de citoyens putanisent leur conscience, se prostituent âme et corps au mensonge, à la haine. Oh, nous sommes passés maîtres dans le grand art de mentir. Certes, on le sut toujours, mais la différence avec ceux du passé est qu'ils se savaient menteurs et n'étaient pas loin d'en convenir naïvement, comme d'un besoin naturel qu'en bonnes gens du midi ont satisfait devant les passants. « Je mentirai, » dit Darius ingénument, « car quand il est utile de mentir, il ne faut point s'en faire scrupule. Ceux qui mentent désirent la même chose que ceux qui disent la vérité. On ment dans l'espoir d'en retirer quelque profit. On dit la vérité, en vue de quelque avantage et pour s'attirer confiance. Ainsi, quoique nous ne suivions pas la même route, nous n'entendons pas moins au même but. Car s'il n'y avait rien à gagner, il serait indifférent à celui qui dit la vérité de dire plutôt un mensonge, et à celui qui ment de dire la vérité. Mais nous, mes contemporains, nous sommes bien plus pudiques. Nous ne nous regardons pas mentir au coin d'une borne. Nous mentons à huis clos. Nous mentons à nous-mêmes. Et nous ne l'avouons jamais, même à notre bonnet. Non, nous ne mentons pas. Nous idéalisons. Allons, qu'on voie vos yeux, et que vos yeux voient, homme libre. » Libre, de quoi êtes-vous libre? Et qui de vous est libre dans vos nations d'aujourd'hui? D'agir? Non, puisque l'État dispose de votre vie, fait de vous des assassins ou des assassinés. De parler et d'écrire? Non, puisqu'on vous emprisonne quand vous dites votre pensée. De penser pour vous seul? Non, si vous ne le cachez bien, et le fond d'une cave n'est pas encore assez sûr. Taisez-vous, méfiez-vous, vous êtes bien gardés. Garde-chiourme pour l'action, sous-off et galonné. Garde-chiourme pour l'esprit, églises et universités qui prescrivent ce qu'il faut croire et ce qu'il faut nier. De quoi vous plaignez-vous? Mais vous ne vous plaignez pas. Point de fatigue de pensée. Répétez le catéchisme. Vous dites que ce catéchisme a été librement consenti par le peuple souverain? Belle souveraineté, nigaud, qui se gonfle les joues du mot de démocratie. La démocratie, c'est l'art de se substituer au peuple et de lui tondre la laine en son nom solennel, pour le profit de quelques bons apôtres. En temps de paix, le peuple ne sait rien de ce qui se passe que ce que lui en disent, dans leur presse à la tâche et gavée, ceux qui ont intérêt à le berner. La vérité est mise sous clé. En temps de guerre, c'est mieux. C'est le peuple qui est mis sous clé. En admettant qu'il ait jamais su ce qu'il veut, il ne lui est plus possible d'en dire le moindre mot. Obéir. Perinde ac cadaver. 10 millions de cadavres. Les vivants ne valent guère mieux, soumis pendant 4 ans au régime déprimant de bourdes patriotiques, de parades de foires, de tam-tams, de menaces, de forfanteries, de haines, de délations, de procès de trahison, d'exécutions sommaires. Les démagogues ont convoqué jusqu'à l'arrière-ban des forces d'obscurantisme pour éteindre les dernières lueurs de bon sens qui s'obstineraient dans leur peuple et pour achever de le crétiniser. La servir ne suffit pas. Il faut le rendre si stupide qu'il veuille être asservi. Les formidables autocraties d'Égypte, de Perse, d'Assyrie, qui se jouaient de la vie des millions d'hommes, puisaient le mystère de leur pouvoir dans le rayonnement surnaturel de leur pseudo-divinité. Toute monarchie absolue a dû être, jusqu'à l'extrême limite des siècles de crédulité, une théocratie. Dans nos démocraties, il est tout de même impossible de croire à la divinité d'un pitre, comme nos ministres véreux et méprisés. On les a vus de trop près. On connaît leur couillonnerie. Alors ils ont inventé de mettre Dieu derrière la toile de leur baraque. Dieu, c'est la République, la patrie, la justice, la civilisation. Elles sont peintes à l'entrée. Chaque baraque de foire étale, en affiche multicolore, sa belle géante. Et ils sont des millions qui se ruent pour la voir. Mais on ne dit pas ce qu'en pensent ceux qui sortent. Ils seraient bien embarrassés pour en penser quelque chose. Les uns ne sortent plus et les autres n'ont rien vu. Mais ceux qui sont restés devant l'estrade, à bâiller, ceux-là voient. Dieu est là, il est là en peinture. Les dieux, c'est le désir que chacun a d'y croire. Mais pourquoi la flambée furieuse de ce désir? Parce qu'on ne veut pas voir la réalité, et donc parce qu'on la voit. C'est là tout le tragique de l'humanité qu'elle ne veut pas voir et savoir. Il lui faut désespérément diviniser sa fange. Nous osons la regarder. L'instinct de meurtre est inscrit au cœur de la nature. Instinct vraiment diabolique, puisqu'il semble avoir créé les êtres non seulement pour manger, mais pour être mangés. une espèce de cormoran, mange les poissons de mer. Les pêcheurs exterminent les oiseaux. Les poissons disparaissent, car ils se nourrissaient des excréments des oiseaux qui se nourrissaient d'eux. Ainsi, la chaîne des êtres est un serpent enroulé qui se mange. Si, du moins, la conscience n'avait pas été créée pour assister à son propre supplice, échapper à cet enfer. Deux seules voies, celle du Bouddha, qui efface en lui l'illusion douloureuse de la vie, et la voie des illusions religieuses, qui jette le voile d'un mensonge éclatant sur le crime et la douleur. Le peuple qui dévore les autres est le peuple élu. Il travaille pour Dieu. Le poids des iniquités, qui enfonce un des plateaux de la vie, trouve son contrepoids dans l'au-delà des rêves, où sont pensées les blessures et les peines. Les formes de cet au-delà varient, de peuple à peuple et d'époque à époque. Et leurs variations sont appelées progrès. Mais c'est toujours le même besoin d'illusion. Il faut bourrer la gueule à cette terrible conscience qui voit et qui demande compte de l'injuste loi. Si on ne lui trouve un aliment à broyer, une fois, elle hurle de faim et d'effroi. Croire, croire ou mourir. Et c'est pourquoi ils se sont mis en troupeau, pour s'affermir, pour faire de leurs doutes individuels une commune certitude. Que venons-nous donc faire avec la vérité? La vérité, elle est pour eux l'ennemi, mais ils ne se l'avouent pas. D'une entente tacite, ils appellent vérité l'amalgame écœurant de peu de vérité et de beaucoup de mensonges. Le peu de vérité sert à maquiller le mensonge. Mensonge et servitude. Servitude éternelle. Mais ce ne sont pas les monuments de la foi et de l'amour qui sont les plus durables. Ceux de la servitude le sont bien davantage. Reims et le Parthénon tombent en ruine, mais les pyramides d'Égypte défient les siècles. Autour d'elles, le désert, ses mirages et ses sables mouvants. Quand je pense aux milliers d'indépendants que l'esprit de servitude a engloutis au cours des siècles, hérétiques et révolutionnaires, insoumis, réfractaires laïques et religieux, je ne m'étonne plus de la médiocrité qui s'étend sur ce monde, comme une eau plate et grasse. Nous, qui surnageons encore sur la morne étendue, que ferons-nous en face de l'implacable univers, où le plus fort écrase éternellement le plus faible et trouve éternellement un plus fort pour l'écraser à son tour? Nous résoudre au sacrifice populaire, par pitié douloureuse et lassée? Ou bien participer à l'égorgement du faible, sans même l'ombre d'une illusion sur l'aveugle cruauté cosmique? Ou que nous reste-t-il? Tenter de nous évader de la mêlée sans espérance, par l'égoïsme ou la sagesse, qui est un autre égoïsme? Car, dans la crise de pessimisme aigu qui rongeait Clérambeau, en ces mois d'isolement inhumain, il n'envisageait même plus la possibilité du progrès. Ce progrès en qui il avait cru jadis, comme d'autres croient au bon Dieu. Maintenant, il voyait l'espèce humaine vouée au destin meurtrier. Après avoir ravagé la planète, exterminé les autres espèces, elle s'anéantissait de ses mains. C'était la loi de justice. L'homme n'est devenu souverain de la terre que par usurpation, par la ruse et la force, mais surtout la ruse. De plus nobles que lui ont peut-être, certainement, disparu sous ses coups. Il a détruit les uns, dégradé et abruti les autres. Il a faim, depuis des millénaires qu'il partage la vie avec les autres êtres, de ne pas les comprendre. Il ment, de ne pas voir en eux des frères, comme lui, souffrant, aimant, rêvant. Pour mieux les exploiter, pour les torturer sans remords, il s'est fait dire par ses hommes de penser que ces êtres ne pensaient point, que lui seul avait ce privilège. Et il n'est pas éloigné de le dire aujourd'hui des autres peuples humains qu'il dépèce et détruit. Bourreau, bourreau, tu n'as pas eu de pitié. De quel droit la réclames-tu aujourd'hui ? Des vieilles amitiés qui naguère entouraient Clérambeau, une seule lui était restée, celle de Madame Méret, dont le mari venait d'être tué en Argonne. François Méret, qui n'avait pas encore atteint la quarantaine, quand il tomba obscurément dans la tranchée, était un des premiers biologistes français. Savant modeste, grand travailleur, chez qui couvait un patient génie et que la célébrité fut venue trouver plus tard. Il n'était pas pressé de recevoir la visite de cette belle prostituée. On partage ses faveurs avec trop d'intrigants. Il lui suffisait des joies silencieuses que donne à ses élus l'intimité de la science et d'un seul cœur sur terre avec qui les goûter. Sa femme était de moitié dans toutes ses pensées. Un peu plus jeune que lui, de famille universitaire, elle était de ces âmes sérieuses, aimantes, faibles et fières, qui ont besoin de se donner, mais qui ne se donnent qu'une fois. Elle vivait de la vie spirituelle de Méret. Peut-être aurait-elle pu aussi bien partager celle d'un autre homme, si les circonstances l'avaient unie à lui. Mais, ayant épousé Méret, elle l'avait épousé tout entier. Comme beaucoup de femmes et des meilleures, son intelligence était apte à comprendre celui que son cœur avait choisi. Elle s'était faite son élève pour devenir son associée. Elle participait à ses travaux, à ses recherches de laboratoire. Il n'avait point d'enfant et communiait dans la pensée. L'un et l'autre, libres d'esprit, avec un haut idéal affranchi de toute religion comme de toute superstition nationale. En 1914, Méret, mobilisé, alla simplement accomplir son devoir, sans aucune illusion dans la cause que les hasards des temps et des patries lui imposaient de servir. Il envoyait du front des lettres stoïques et lucides. Jamais il n'avait cessé de voir l'ignominie de la guerre, mais il se croyait obligé au sacrifice pour obéir au destin qu'il avait incorporé aux erreurs, aux souffrances et aux luttes confuses d'une pauvre espèce animale évoluant lentement vers une fin ignorée. Il connaissait Clérambeau, des relations de province entre les deux familles, avant que l'une et l'autre ne se fussent transplantées à Paris, avaient été la base de rapports amicaux. Plus solides qu'intimes, car Méret ne livrait qu'à sa femme son cœur, et fait surtout d'estime indestructible. Depuis le commencement de la guerre, chacun étant pris par ses soucis, ils n'avaient pas correspondu. Ceux qui se battaient ne dispersaient pas leurs lettres entre beaucoup d'amis. Il les concentrait sur un seul être aimé, à qui il disait tout. Méret, plus que jamais, avait fait de sa compagne l'unique dépositaire de ses confidences. Ses lettres étaient un journal où il pensait tout haut. Dans l'une des dernières, il parlait de Clérambeau. Il avait eu connaissance de ses premiers articles, par les journaux nationalistes seuls tolérés au front, qui en citaient des extraits afin de les insulter. Il disait à sa femme quel soulagement lui avait fait cette parole d'honnête homme, outragé. Et il la priait de faire savoir à Clérambeau que sa vieille amitié pour lui en était devenue plus étroite et plus chaude. peu après, il mourait, avant d'avoir reçu les articles suivants qu'il demandait à Madame Méret de lui envoyer. Lorsqu'il eut disparu, celle qui vivait uniquement pour lui chercha à se rapprocher des êtres qui lui avaient été proches aux dernières heures de sa vie. Elle écrivit à Clérambeau. Lui, qui se dévorait dans sa retraite de province, sans avoir l'énergie de s'y arracher, reçut comme une délivrance l'appel de Madame Méret. Il revint à Paris. Ils trouvèrent tous deux une amère douceur à évoquer ensemble la figure de l'absent. Ils prirent l'habitude de se réserver une soirée par semaine pour s'enfermer avec lui. Clérambeau était le seul des amis de Méret qui put comprendre la tragédie cachée d'un sacrifice que ne dorait aucune illusion patriotique. D'abord, Madame Méret goûta un soulagement à lui livrer tout ce qu'elle avait reçu. Elle lui lisait les lettres, les confidences des abusés. Il les méditait avec émotion, et elle les amenait à remettre en question les problèmes qui avaient causé la mort de Méret et celle de millions d'autres. Dans cet âpre examen, rien n'arrêtait Clérambeau. Et elle n'était pas femme à reculer dans la recherche de la vérité. Et pourtant, Clérambeau s'aperçut bientôt d'un malaise que ses paroles causaient en elle, tandis qu'il disait tout haut ce qu'elle savait bien, ce que constataient clairement les lettres de Méret, la criminelle inutilité de ses morts et l'infécondité de cet héroïsme. Elle essaya de reprendre ce qu'elle avait confié. Elle en discutait le sens, avec une passion qui ne semblait pas toujours de très bonne foi. Elle retrouva dans son souvenir des paroles de Méret, qui le montraient plus près de l'opinion commune et paraissant l'approuver. Un jour, Clérambeau, l'écoutant relire une lettre que déjà elle lui avait lue, remarqua qu'elle en passait une phrase où s'exprimait le pessimisme héroïque de Méret. Et, comme il insistait, elle parut froissée. Ses manières se firent plus distantes. Sa gêne, progressivement, se mua en froideur, puis en irritation, puis même en une sorte d'animosité sourde. Elle finit par l'éviter. Et, sans rupture avouée, il sentit qu'elle lui en voulait et qu'elle ne le verrait plus. C'est qu'à mesure que se poursuivait l'impitoyable analyse de Clérambeau, qui ruinait les fondements des croyances actuelles, il se faisait chez Madame Méret un travail inverse de reconstruction et d'idéalisation. Son deuil avait besoin de se convaincre qu'il avait, malgré tout, une cause sainte. Le mort n'était plus là pour l'aider à porter la vérité la plus redoutable, à deux, est encore une joie. Mais à qui reste seule, elle est mortelle. Clérambeau le comprit. Sa sensibilité frémissante perçut qu'il faisait souffrir. Et la peine de cette femme lui devint sienne. Et il ne fut pas loin d'approuver sa révolte contre lui. Il vit l'immense douleur cachée et l'inefficacité de la vérité qu'il apportait pour y remédier. Bien plus, le mal qu'elle ajoute au mal qui existe déjà. Insoluble problème. Ces infortunés ne peuvent se passer des illusions meurtrières dont ils sont les victimes. On ne peut plus les y arracher sans que leurs souffrances deviennent intolérables. Ces familles, qui ont perdu des fils, des maris, des pères, ont besoin de croire que c'est pour une œuvre juste et vraie. Ces hommes d'État, qui mentent, sont forcés de continuer à mentir aux autres et à soi. S'ils cessent un instant, la vie ne leur serait plus supportable, ni à ceux dont ils ont la charge. Malheureux hommes, la proie de ces idées, et qui leur a tout donné, il faut qu'il leur donne chaque jour davantage, ou qu'il trouve sous ses pas le vide et qu'il tombe. Quoi ? Après 4 ans de peines et de ruines sans nom, il nous faudrait admettre que ça a été pour rien, que non seulement la victoire sera ruineuse, mais qu'elle ne pouvait être autrement, que la guerre était absurde, que nous nous sommes trompés. Jamais. Mieux vaut mourir jusqu'au dernier. Un homme seul, qu'on force à reconnaître que sa vie a été perdue, sombre dans le désespoir. Que serait-ce d'une nation, de 10 nations, de l'entière civilisation ? Clérambeau entendait le cri de la foule humaine « Vivre, coûte que coûte, nous sauver, à tout prix. » Mais justement, vous ne vous sauvez pas. Votre route vous mène à des catastrophes naturelles, à une somme infinie de souffrances. Si affreuses qu'elles soient, elles le sont encore moins que ce que tu nous offres. Mourir avec l'illusion, plutôt que vivre sans illusion. Vivre sans illusion, non, c'est la mort vivante. Celui qui a déchiffré le secret de la vie et qui en a lu le mot, dit la voix harmonieuse d'Amiel, le désenchanté, échappe à la grande roue de l'existence. Il est sorti du monde des vivants. L'illusion évanouit, le néant reprend son règne éternel. La bulle d'air coloré a crevé dans l'espace infini, et la misère de la pensée s'est dissoute dans l'immuable repos du rien illimité. Mais ce repos du rien est la pire torture pour l'homme de race blanche. Plutôt tous les tourments de la vie, ne me les arrache pas. Meurtrier, qui m'enlève le mensonge déchirant dont je vis. Clérambeau, amèrement, s'appliquait le titre que lui avait donné, par dérision, un journal nationaliste. L'un contre tous. Oui. L'ennemi commun, le destructeur des illusions qui font vivre. Et il n'en voulait pas. Il souffrait trop de la pensée de faire souffrir. Comment donc sortir de la tragique impasse ? De quelque côté qu'il se tournât, toujours le dilemme insoluble. Ou l'illusion mortelle, ou la mort sans illusion. Je ne veux ni l'une ni l'autre. Que tu le veuilles ou non, plie, la route est fermée. Je passerai quand même.